Contrairement à ce qui est noté dans le livret, on a un petit problème, c'est que la dernière conférence du cycle, qui s'intitule Trajectoire de mobilité sociale et professionnelle, les migrants de Tunisie, est reportée l'année prochaine, à la prochaine programmation. Voilà. Donc en fait, c'est la dernière conférence, la cinquième du cycle que nous organisons en partenariat avec le laboratoire Migrinter. Donc je remercie infiniment à nos amis d'être là ce soir. Yann ne peut pas être présent, mais s'en excuse. Donc c'est Céline qui va représenter le laboratoire Migrinter et faire la conférence en duo avec Monsieur Kella. Bon, c'est un thème d'actualité. C'est un thème qu'on a choisi avant les vacances. Donc on ne savait pas que les grandes vacances seraient aussi, ce serait un thème aussi prégnant pendant les grandes vacances. Donc de toute façon, c'est très très intéressant d'en parler. Donc le sujet aujourd'hui, c'est réflexion autour des gens du voyage, inscription locale et pratique spatiale des familles. Et donc je vous présente Céline Bergeon, qui est doctorante en géographie au laboratoire Migrinter à l'Université de Poitiers, et Monsieur Christian Kella, qui est un jeune
étudiant. Qui veut devenir là?
Jeune étudiant, qui est directeur de l'association ADAPGV 86. Donc, vous allez nous dire ce qu'est cette association, monsieur. Donc, je vous remercie beaucoup et à vous aussi d'être là ce soir pour cette belle conférence.
Merci.
Bien, bonsoir à tous. Donc, comme Anne vous l'a dit, donc, je suis Céline Bergeon et ce soir, on va vous faire un petit duo autour d'une réflexion sur la population des gens du voyage. Donc, pour ma part, je vais vous donner quelques éléments concernant l'histoire de cette population et je vais coupler ça, en fait, à une clarification de la question identitaire. Et dans un second point, donc j'aborderai également le contexte législatif actuel concernant le stationnement et l'accueil des gens du voyage. Donc je pense que ça fera une bonne transition avec l'exposé de Christian, qui fera plus une présentation de la population et de ce qui se passe au niveau local. Donc quelques éléments historiques. Donc les premiers groupes de ceux que l'on appelle aujourd'hui les gens du voyage arrivent en Europe occidentale au XIVe siècle et au XVe siècle. Donc leurs origines interrogent autant que leur mode de vie. Donc en fait, l'image du voyageur s'est construite à partir de ce que l'observateur imaginait, de ce qui lui était conté et surtout de ce qu'il observait de la quotidienneté de ces groupes. Donc une des raisons principales qui peut justifier en fait cet imaginaire autour des gens du voyage, c'est qu'ils possèdent en majeure partie une culture orale et qu'il y a manifestement une absence d'écrit historique. Et donc ceci, en fait, c'est venu amplifier la construction d'une image faite de représentations, mais aussi de préjugés. Donc ces images construites ont eu une influence certaine sur la multiplication des termes utilisés pour les désigner. Donc ainsi, les noms qui ont été attribués à ces gens du voyage désigne le plus souvent des réalités imprécises et différentes. Donc, pour citer Jean-Pierre Liégeois, donc un des grands auteurs qui a écrit sur les gens du voyage. Donc, son dernier ouvrage date de 2009. Donc, ces groupes qui arrivent en Europe au XIVe et au XVe siècle donc, ont quitté l'Inde du Nord cinq siècles plus tôt suite à des persécutions liées à des invasions musulmanes. Donc, lorsqu'ils pénètrent en Occident, donc, ils suscitent l'étonnement et obtiennent donc en premier lieu l'hospitalité. Certains groupes proviennent de l'est de l'Europe et possèdent avec eux une lettre de protection du roi de Bohême. Donc très rapidement le lien est fait et ils sont qualifiés de bohémiens. Quelques groupes arrivent depuis la petite Égypte, donc d'où le terme de gitan ou gypsy en anglais, et dans un même temps d'autres sont associés à la secte grecque des Atinganos, donc, ou Astinganos pour les connaisseurs, et sont appelés Diganes. Donc vous voyez que les chemins de migration en fait découlent des appellations. Donc le terme de bohémien devient la désignation de référence lorsque ces groupes arrivent en Europe occidentale. Il est fréquemment utilisé pour désigner ceux dont l'origine reste mystérieuse et dont le quotidien repose manifestement sur le mouvement. À la même période, les États occidentaux sont soucieux de résoudre le problème du vagabondage, qui est donc à cette époque, et toujours maintenant d'ailleurs, considéré comme une pratique dangereuse et déviante. Alors rapidement, les groupes de voyageurs y sont associés et la répression augmente contre ces bohémiens. Donc, en parallèle à cela, on a des procédures d'expulsion qui sont engagées donc, en France et au-delà des frontières françaises, hein, partout en Europe à cette époque-là. Donc, par exemple, en Suisse, dès 1471, donc on a des expulsions. En 1498 en Allemagne, en 1499 en Espagne, puis en France à partir de 1539, donc notamment sous l'édit de François Ier. Au cours du XVIIe siècle, donc Louis XIV, dans une déclaration qu'il fait en mai 1682, il érige le vagabondage en délit. Alors nos voyageurs deviennent alors hors la loi. Donc le terme de vagabond remplace de ce fait officiellement celui de bohémien, et ces périodes de forte répression marquent l'éclatement de grands groupes donc, qui étaient arrivés en Europe occidentale au XIVe et au XVe siècle en d'autres petites unités donc plus restreintes, et on assiste alors à un redéploiement en fait de cette population, à un dispatch voilà, de la population au sein du territoire français et plus au-delà au sein du territoire européen. Au cours du XIXe siècle, ils sont considérés comme des détracteurs de l'ordre public. La sûreté publique est déjà, donc, à cette époque, une des préoccupations majeures des circulaires sont régulièrement publiées. Donc, circulaires publiées donc, au sujet, je cite, des vagabonds étrangers connus sous la dénomination de bohémiens, donc, comme l'indique par exemple la circulaire de novembre 1864. Donc on a tout un dispositif de politique de répression qui se durcissent tantôt avec des expulsions et tantôt avec des processus d'assignation à résidence. Donc en fait, hein, on est vraiment, comme vous le voyez, dans un contexte répressif très dur. Ensuite, le terme de nomade apparaît à la fin du XIXe siècle et prend une assise particulière au début du XXe siècle avec la création officielle de sa catégorie administrative dans une loi qui date de 1912. Et cette loi de 1912 stipule que les nomades, donc je cite, sont ceux qui circulent sur le territoire français sans domicile ni résidence fixe, n'exerçant pas de profession ou de commerce ambulant, ni la profession de commerçant ou d'industriel forain. Alors ici, si le législateur précise que le nomade n'est pas l'industriel forain, c'est que cette catégorie est à cette époque appelée gens du voyage, donc au milieu du XIXe siècle, pour désigner les circassiens. Donc circassiens qui sont non apparentés, donc à cette époque, aux bohémiens et aux nomades. Donc c'est une catégorie à part. Et donc cette catégorie à part, hein, donc les circassiens qui sont communément appelés les gens du voyage à cette époque, possèdent alors une reconnaissance, notamment socio-professionnelle. Donc en fait, elles ne portent pas de connotation péjorative, comme elle peut le laisser entendre de nos jours. À partir de 1945, les gens du voyage englobent l'ensemble des personnes ayant un mode de vie circulant, et le législateur, à partir de cette période-là, y assimile les circassiens. On assiste alors à la construction politique et légale de la catégorie gens du voyage, qui sous-entend l'intime corrélation entre le caractère mobile et cette population même. Donc, ces gens du voyage ont alors un triple statut. Donc, ils ont un statut juridique. Donc, ils possèdent des papiers de circulation. Donc, papiers de circulation qui sont instaurés par la loi de 1912. Donc, je vais y revenir après. Ils ont un statut ethnique. Alors, pourquoi ? Donc, parce que cette expression « gens du voyage » désigne de manière contournée un groupe culturel. Et troisième statut, donc, ils ont un statut professionnel, puisque l'expression est à l'origine utilisée pour désigner les circassiens. Voilà, donc, comme si la catégorie gens du voyage était construite pour occulter officiellement l'ethnicité du groupe qu'elle désigne. Alors, plus récemment, l'expression gens du voyage prend une assise particulière lors des années 1970. La dénomination gens du voyage est aujourd'hui la dénomination officielle pour désigner cette population. Et elle regrouperait plusieurs groupes, donc notamment les manouches et les gitans, et couramment, et peut-être de façon erronée, y sont regroupés les Roms de l'Est et les Yéniches. Donc on pourra revenir pendant le débat sur tout ce flou autour des dénominations. Donc vous voyez bien que l'histoire de la reconnaissance de cette population s'illustre donc par la multiplicité des termes qui a été utilisée pour les désigner. Donc à chaque désignation est accolé un éventail de représentations plus ou moins péjoratives, mais qui tendent toutes néanmoins vers une idée quand même dans l'ensemble assez négative. Alors souvent, lorsqu'on travaille avec les gens du voyage, en tant que chercheur ou en tant que travailleur social, par exemple, on s'aperçoit que concernant toutes ces dénominations, la réalité est parfois un peu différente. Alors Christian, sur ce point, pourra confirmer ou désapprouver, mais je pense quand même qu'on se rejoint en quelque sorte sur ce point. Donc là, je vais parler un tout petit peu de mon travail de thèse, hein, puisque c'est l'objet même de ma recherche. Et donc j'ai questionné toutes ces questions identitaires. Et le travail que j'ai fait sur le terrain donc, a mis en lumière une diversité dans l'utilisation des référents identitaires. Et cette diversité, elle souligne souvent l'écart entre les classifications culturelles officielles et celles utilisées par les acteurs, donc celles qu'ils utilisent pour s'auto-désigner. Alors, si les ouvrages scientifiques évoquent une multitude de termes pour désigner les voyageurs, les échanges que j'ai pu avoir avec eux ont révélé un usage restreint de quelques dénominations pour s'identifier et surtout pour désigner l'autre. Donc c'est pourquoi, donc, lors des entretiens que j'ai faits pendant ma thèse, j'ai porté un intérêt particulier à la façon dont ils se signalaient. Donc cette attention particulière est notamment née d'une erreur que j'ai commise au début de mon travail de terrain pour ma thèse, lors d'un échange durant lequel j'avais désigné une femme manouche comme une zigane. Alors, elle m'a cadré dès le début et sa réaction fut brève, donc elle a vraiment cadré les choses. Elle m'a dit « Non, moi, je ne suis pas une zigane, je suis une femme manouche. » Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand même, que j'ai mesuré l'importance de cette question de la désignation de l'autre et de l'autodésignation. Donc, cette femme manouche, avec son intervention, me mettait devant un constat. Donc, la nommer de façon erronée et me repréciser son groupe culturel d'appartenance montrait qu'il existait des processus d'identification et d'appartenance complexes. Donc vous avez vu que dans sa réponse, cette femme manouche a utilisé le terme de zigane. Alors moi, lors de mon travail de terrain pour ma thèse, lors des entretiens, c'est un terme qui a été quand même assez peu utilisé par les voyageurs que j'ai rencontrés. Et il a servi notamment à nommer les populations venant de l'Est de l'Europe, particulièrement donc les populations roms. Donc là, je vais faire une petite citation de Christophe Robert, donc qui est également spécialiste de la question et qui lui aussi s'est interrogé sur cette question identitaire. Et donc, il précise que l'appellation de zigane est ainsi utilisée pour évoquer l'ensemble des groupes manouches, roms, gitans, etc., en sachant toutefois que rares sont les familles qui ont elles-mêmes recours à cette désignation. Et donc ça, effectivement, c'est une observation qui a été des plus récurrentes sur mon terrain de thèse. Donc sur ce constat, et devant cette globalité en fait que prend en fait ce terme de zigane, de nombreux auteurs donc décident d'employer le terme de zigane et plus généralement l'appellation officielle gens du voyage pour désigner la population qu'ils étudient. Donc régulièrement dans mon intervention, je vais injecter en fait des bribes de mes entretiens avec les voyageurs donc pour un peu humaniser la chose. Et donc là, je vous cite une phrase de Douce, hein, donc c'est les noms bien sûr ont été changés, hein, c'est de façon anonyme, qui est une femme en ouche de Charente-Maritime et donc qui vit sur une aire d'accueil. Et donc quand je l'ai questionnée un petit peu sur toutes ces questions identitaires, et là elle me dit « Comment vous dites déjà ? Ah oui, on est des gens du voyage. Hein. » Puis là, elle se met à rire. C'est marqué sur les panneaux « gens du voyage ». Donc cette expression « gens du voyage » est généralement utilisée par les acteurs, donc par les voyageurs, dans le parcours. Elle est régulièrement associée aux aires d'accueil et à leur localisation. Donc également, à différentes reprises, les manouches que j'ai pu rencontrer ont employé ce terme de façon ironique hein, pour s'auto-identifier, comme je viens de vous le dire à travers les paroles de Douce. Et donc d'une manière générale, elle constitue l'expression qui fait le lien entre ces populations et la société globale. Donc la communication se fait par l'intermédiaire de la notion gens du voyage, mais c'est une expression qui est quand même construite par les sociétés d'accueil et qui sert à définir une population donc, dans son ensemble. Dans un même temps, c'est une expression qui suggère une spécificité culturelle, donc la pratique du voyage. Alors si la terminologie gens du voyage est rarement employée par les manouches ou les gitans, par exemple, elle leur permet néanmoins donc, d'avoir une reconnaissance que j'appelle, bon, entre guillemets, hein, artificielle. Autre terme qui apparaît récurrent, c'est le terme de voyageur, donc, qu'il y a une récurrence certaine hein, dans les échanges que j'ai pu avoir avec cette population. Donc ce terme de voyageur, donc ils l'emploient également fréquemment entre eux et lors de leurs discussions pour s'intégrer dans un ensemble plus général, hein, les voyageurs, donc avec une majuscule si vous voulez, comme les Français ou les voyageurs. Donc ils l'utilisent également pour identifier l'autre, donc celui qui appartient aussi à ce groupe, celui qui possède un mode de vie similaire. Ce terme de voyageur, il est également utilisé donc, pour désigner le voyageur qui ne voyage plus. Donc, et ça, c'est très important. Hein, donc, même s'il existe un dénominateur commun qui est le voyage, l'arrêt de celui-ci ne modifie en aucun cas le sentiment d'appartenance au groupe plus vaste, le groupe des voyageurs. Donc, la pratique du voyage n'est donc pas la seule condition pour expliquer tous ces processus d'identification. Alors, à une autre échelle de l'appartenance sociale, les identifications au groupe culturel de référence restent récurrentes. Donc là, ce que j'appelle le groupe culturel de référence, c'est quand ils me disent « moi, je suis une mandouche, moi, je suis une gitane, etc. » Donc ces renvois fréquents montrent certainement l'importance de se sentir appartenir à un groupe particulier avec des valeurs singulières, malgré la mise en avant, dans certaines situations, de leur adhésion à un collectif plus vaste, hein, celui des voyageurs. Donc en se démarquant ainsi, la population nous montre elle-même combien la diversité interne en termes de dénomination existe. Donc deux autres niveaux d'identification existent, donc celui de la famille, donc qui constitue un autre niveau sur l'échelle des appartenances sociales, mais il est également le plus signifiant. Donc au-delà de l'identification à un groupe culturel d'appartenance, hein, donc gitan, manouche, etc., le réseau familial constitue le noyau de référence. La famille est également l'élément par lequel les identifications s'opèrent à l'échelle micro. Donc moi, ce que j'ai pu ressortir aussi par le biais de mes entretiens, donc c'est certains groupes donc, connaissaient d'autres familles, etc., et s'identifient entre eux en fait par le biais du nom de famille. Donc lui, alors j'invente les noms. Hein, donc lui, c'est un Dupont. Le mari de la cousine, c'est un Reynard, etc. Donc, encore une fois, sa propre appartenance est démontrée en signifiant ceux qui n'en font pas partie. Et donc, la dernière échelle donc, concerne celle de l'individu. Donc, elle arrive en dernier, mais elle n'en est pas moins importante. Donc, l'individu, dans le cadre communautaire, s'épanouit largement dans sa contribution qu'il apporte à l'équilibre du groupe. Donc un peu pour résumer, hein, au regard de la complexité des processus d'identification, on peut aussi se questionner sur la question du recensement de la population des gens du voyage qui apparaît de premier abord difficile. À cela viennent s'ajouter des pratiques circulatoires plus ou moins soutenues qui compliquent les essais de recensement. Alors en France, il existe trois sources officielles sur lesquelles les institutions peuvent s'appuyer pour obtenir des chiffres concernant les gens du voyage. Donc la première, c'est le fichier des sans domicile ni résidence fixe, dans lequel est précisée une commune de rattachement. Donc la commune de rattachement, elle est instituée par une loi qui est sortie en 1969 sur l'exercice des activités ambulantes. Et donc cette loi instaure des communes de rattachement qui doivent être impérativement mentionnées sur les documents de circulation, dont je vous ai mentionné tout à l'heure et sur lesquels on reviendra. Donc sur des titres de circulation que doivent posséder les voyageurs de plus de 16 ans. Donc vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça dans quelques minutes. Donc trois sources officielles. Donc la première, donc le fichier des sans domicile ni résidence fixe, donc dans lequel est précisée cette commune de rattachement. Donc c'est la gendarmerie nationale qui possède ces données. Et ce fichier donc, a été instauré par une circulaire en date de mars 1995. Deuxième source, c'est le fichier des minorités ethniques non sédentarisées, donc, ou MENS pour l'acronyme. Donc, seconde source possible pour la production de statistiques concernant les gens du voyage en France. Ils sont généralement associés aux minorités ethniques non sédentarisées par les autorités policières donc, et de gendarmerie. Donc c'est plus que courant. Ce fichier a été instauré par la circulaire du ministère de l'Intérieur en date de mai 78. Donc vous voyez, ça remonte quand même. Donc c'est une circulaire intitulée « Situation des nomades ». Vous voyez, en 78, on avait encore pas mal de personnes qui utilisaient le terme de nomade alors que l'expression « gens du voyage officiel » était déjà instituée. Donc À ces deux fichiers peuvent s'ajouter des comptages ponctuels et journaliers des caravanes, donc qui sont généralement effectués par la gendarmerie nationale. Donc, on peut dès à présent mettre en avant quelques lacunes concernant ces trois possibilités qui s'offrent à l'État pour estimer et contrôler donc, cette population sur son territoire. Donc, dans un premier temps, donc, concernant le recensement qui est fait à l'aide du fichier des sans domicile ni résidence fixe, donc, d'une part, il ne prend pas en compte les moins de 16 ans. Donc, il y a des voyageurs qui ont moins de 16 ans. Et par ailleurs, d'autres populations, comme les sans domicile fixe, par exemple, possèdent également un titre de circulation, donc ce qui rend compliqué le dénombrement précis des voyageurs. Donc, concernant le fichier MENS, donc des minorités ethniques non sédentarisées, c'est un fichier qui a été créé pour recenser la délinquance itinérante. Donc, c'est la cellule interministérielle de liaison sur la délinquance itinérante, donc la CILDI, qui se charge de regrouper l'ensemble des données. Alors, bien que ces stats soient reprises maintes fois pour justifier des comportements déviants des gens du voyage, d'autres populations peuvent être représentées dans ce fichier. Alors, tous les gens du voyage n'y figurent donc pas, et toutes les personnes inscrites dans ce fichier ne sont pas uniquement des gens du voyage. Donc, voilà, tous les gens du voyage ne sont pas des délinquants. Et donc je vous ai parlé d'une troisième source, hein, qui est les comptages ponctuels, qui sont exercés par la gendarmerie nationale. Et vous voyez bien qu'elles ne peuvent pas être précises, puisque tous ceux qui habitent en caravane ne sont pas forcément voyageurs. Donc, de plus, cette méthode, donc, on peut également l'interroger sur les voyageurs qui sont en route, qui ne sont pas stationnés, voilà, comment on les recense. Pour faire un petit retour en arrière, on a eu des recensements spécifiquement créés pour les gens du voyage, donc en septembre 1960 et en mars 1961. Ce sont deux recensements qui ont été effectués par la police et la gendarmerie, qui ont été mandatés donc, pour effectuer un comptage précis, donc, entre guillemets, hein, des gens du voyage. Et donc, ils ont été mandatés par le ministère de l'Intérieur et de la Santé. Donc, pour vous donner quelques idées de chiffres, donc je dis bien quelques idées, hein, parce qu'on a des problèmes de méthodologie concernant ce recensement, et problèmes de méthodologie aussi problèmes d'éthique, hein, à quoi ça sert, etc. Donc ça également, on pourrait y revenir lors du débat. Toujours est-il qu'en septembre 60 et en mars 61, donc, le ministère nous a donné quelques chiffres, et les résultats montrent que les voyageurs étaient au nombre de 79 452 en France. Et parmi ces 79 452 personnes, 26 628 d'entre elles seraient itinérantes, donc ceux qui voyagent toute l'année. 26 690 seraient semi-sédentaires, donc semi-sédentaires, ceux qui voyagent l'été et ceux qui s'arrêtent l'hiver. Et enfin, 31 134 voyageurs seraient des voyageurs sédentaires, donc ceux qui ne voyagent, qui ne voyageraient plus du tout. Je préfère parler au conditionnel parce que c'est plus compliqué que ça. Depuis 1999, donc nos gens du voyage qui sont sur le territoire français donc sont intégrés au recensement général de la population. D'autres statistiques existent et sont essentiellement révélées dans divers rapports officiels du ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez qu'il y a quand même une relation quand même assez sous-jacente entre ministère de l'Intérieur et recensement des populations des gens du voyage sur le territoire français. Donc elles font office d'estimation, du coup, bien consciente des difficultés qui découlent de ces recensements. Donc, on a trois rapports officiels, enfin, du moins deux rapports officiels et des chiffres issus d'une loi. Donc, on a le rapport Delamont de 1990, donc qui s'intitulait « La situation des gens du voyage et les mesures proposées pour l'améliorer ». Et donc, dans ce rapport de 90, ils estimaient donc les nomades, donc ils utilisent encore le mot nomade dans leur rapport. Donc, ils estimaient les nomades au nombre de 140 000 personnes, dont 45% auraient moins de 16 ans. Donc, pour vous donner un ordre de... Alors, tout à l'heure, on était quand même sur du... En 61, on était sur du 79 000. Et donc là, donc en 90, donc 30 ans après, donc on est sur du 140 000. 7 ans après, le sénateur Delevoye, donc en 97, effectue également un rapport donc intitulé « Accueil des gens du voyage ». Et quant à lui, donc il fait une estimation basse et une estimation haute. Donc son estimation basse, donc c'est 220 000 personnes, et l'estimation haute, 250 000 personnes. Donc vous voyez qu'en 7 ans, on prend 120 000 personnes. Donc pour vous illustrer un petit peu les problèmes de méthodologie qui tournent autour de ce recensement. Et enfin, dans la présentation de son projet de loi en 1998, donc Louis Besson, donc je parle bien de Louis Besson et pas de Éric Besson, Louis Besson fait état de 240 000 personnes, donc il se rapproche à peu près de l'estimation du sénateur Delevoye en 1997. Donc pour finir, je vais vous donner quelques éléments législatifs qui régissent un peu la situation actuelle des gens du voyage. Donc là, je vais essentiellement revenir sur les principales lois qui ont marqué le XXe siècle et le XXIe siècle. Donc j'en ai fait un peu référence tout à l'heure, la loi de 1912, qui est le premier texte législatif du XXe siècle qui concerne les voyageurs. Donc ils sont plus communément appelés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure à cette époque, nomades. Donc cette loi de 1912, elle s'appliquait à trois catégories de personnes, donc les commerçants ambulants, dont les activités devaient être signalées à la préfecture, les forains, qui devaient posséder un carnet d'identité, et enfin les nomades, qui, je cite, « quelle que soit leur nationalité, circulent en France sans domicile fixe et ne sont ni commerçants ambulants, ni forains, même s'ils ont des ressources régulières ou prétendent exercer une profession. » Alors l'article 3 de cette loi de 1912, et ça c'est un des points des plus importants, il instaure un carnet anthropométrique qui doit être visé à chaque arrivée et à chaque départ d'une commune. Donc en gros, un voyageur devait posséder un carnet anthropométrique sur lequel il y avait sa photo. Donc il y avait son nom, son prénom, et il y avait également des mesures du crâne. Voilà, c'est ça. Donc il devait posséder ce document-là, sinon il était hors la loi. Et surtout, dès qu'il arrivait dans une commune et dès qu'il en repartait, il devait le faire viser par une autorité compétente. Donc gendarmerie, police, préfet ou autre. Donc par le biais de ce document, donc, le contrôle des populations nomades devrait être plus facile. Donc, avec l'instauration de la loi du 16 juillet 1912, les pouvoirs délégués aux maires des communes grandissent. Donc, en parallèle, ils ont le droit de refuser de viser le carnet. Et ce refus de viser le carnet, en fait, il interdit donc totalement le stationnement des voyageurs sur le territoire communal. Donc là, je vais vous citer un petit paragraphe d'entretien que j'ai eu avec Gigi, qui est un voyageur qui a repris le voyage... Enfin, qui nous a appris qu'il reprenait le voyage le soir de la fête de sa retraite. Donc, il était sédentarisé. Et depuis quelques mois, en fait, il se constituait en secret un stock de paniers, etc. Et donc, le soir, on a fait une fête pour fêter donc, son départ en retraite, parce qu'il était employé dans une association et s'occupait de l'atelier vannerie. Donc, il nous a appris qu'il voilà, s'était reconstitué depuis quelques mois tout un stock de paniers, etc., qu'il s'était acheté une caravane, un camion, et que demain, il repartait sur les routes. Donc ça a vraiment été quelqu'un de très important pour mes recherches. Et voilà. Donc je le cite. Quand je voyageais encore, il y avait le carnet de forain. Donc ils appelaient ça le carnet de forain. Moi j'en avais un. Il était mieux vu que ce carnet. Donc là il parle du carnet anthropométrique. Donc il était mieux vu que ce carnet anthropométrique. Car ça prouvait qu'on avait une activité. On faisait les marchés, les foires, etc. Il y avait le carnet anthropométrique qui était vraiment quelque chose de mal. Les voyageurs qui avaient ce carnet étaient considérés comme des étrangers. Parfois, un simple contrôle de police et ils passaient une journée entière au commissariat car ils étaient considérés comme des nomades. Et donc, là, j'ai arrêté le dictaphone et donc après, Gigi me raconta par la suite qu'un après-midi, il s'était fait contrôler dans les années 60 avec sa femme. Les forces de l'ordre l'ont autorisé à partir puisque Gigi, lui, détenait un carnet de forain et sa femme, quant à elle, qui possédait un carnet anthropométrique, donc qu'il identifiait comme une contrevenante à la sédentarité, en quelque sorte. Donc, sans motif valable, outre que celui de la mobilité mis en avant par les forces de l'ordre, Gigi n'a pu retrouver sa femme que le soir même. Elle était restée en contrôle au poste de gendarmerie presque toute la journée. Donc, juste pour le fait d'avoir un carnet anthropométrique. Alors, actuellement, c'est la loi du 3 janvier 1969 qui permet aux administrations de délivrer des titres de circulation pour les trois catégories de circulants, donc instaurées initialement par la loi de 1912. Alors, si certains considèrent cette loi de 1969 comme un pas vers la compréhension, hein, puisque le carnet anthropométrique est supprimé, elle instaure néanmoins d'autres documents que les voyageurs sont aussi dans l'obligation de présenter et de posséder. Donc cette loi du 3 janvier 69 fait un parallèle manifeste entre les voyageurs et les catégories socio-professionnelles ambulantes qu'elle concerne. Donc cette loi de 69 concerne trois catégories. Donc première catégorie, les commerçants ambulants, dont les activités doivent régulièrement être déclarées à l'administration. Donc cette catégorie de personnes détient, elle, un livret spécial de circulation. Deuxième catégorie, donc les caravaniers, qui représentent des personnes qui logent dans des résidences mobiles et qui ont, eux, des revenus réguliers. Donc il leur est délivré un livret de circulation. Et enfin, troisième catégorie, donc on a les nomades, dont l'habitat est mobile et dont les revenus sont irréguliers. Donc eux, ils doivent posséder un carnet de circulation qu'ils doivent faire viser tous les 3 mois. Donc ça, c'est encore d'actualité, parce que peu de personnes, finalement, sont au courant que les voyageurs doivent encore posséder un carnet de circulation qu'ils doivent faire viser tous les 3 mois, donc à une autorité compétente. Donc ce carnet de circulation remplace le carnet anthropométrique et permet à cette catégorie de voyageurs de jouir de droits sociaux. Donc à la demande de ces titres de circulation, ils sont directement enregistrés dans un fichier central et il leur est demandé en fait de choisir une commune de rattachement afin de profiter des avantages liés au domicile, donc par exemple le mariage, la sécurité sociale ou encore le droit de vote, etc. Et ce rattachement prend acte pour 2 ans. J'ai presque fini. Je ne sais pas si je suis trop... D'accord. Alors, le stationnement des groupes des voyageurs, maintenant je passe au stationnement. Donc, il est explicitement évoqué par Louis Besson, donc secrétaire d'État au logement, en 90, dans une loi donc, visant la mise en œuvre du droit au logement, dans laquelle un article est spécifiquement consacré à l'accueil des populations itinérantes. Donc, je cite cet article 28... Il stipule qu'un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activité économique. Toute commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur un territoire par la réservation de certains de terrains aménagés à cet effet. Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les mairies des communes qui se sont groupées pour réaliser cette structure d'accueil, par arrêté, pourront interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal. Donc en gros, si une commune de plus de 5000 habitants qui est obligée d'avoir une aire d'accueil possède une aire d'accueil, si elle est remplie ou pour une autre raison, si des voyageurs veulent stationner ici, ils ne peuvent pas. Donc l'idée principale de cette loi était de sensibiliser les communes à l'accueil des gens du voyage, dans un objectif de prévention et d'anticipation de problèmes de stationnement, plutôt que d'être surpris par la halte de groupe, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre en termes de conflits locaux, etc. Donc sans obligation ni délai d'exécution, donc cet article 28 était le plus souvent l'oublié des préoccupations communales, donc notamment en termes de logement. Donc là, on était plus sur une incitation, et cette incitation, elle devient une obligation en 2000, où les préconisations en fait, de 90 donc, deviennent des obligations. Une loi est entièrement dédiée au stationnement des groupes de gens du voyage et à leur prise en charge au sein des départements et plus particulièrement effectivement, dans les communes de plus de 5000 habitants. Donc, cette nouvelle loi qui est consacrée spécifiquement aux gens du voyage, donc, elle abroge l'article 28 de la loi du droit au logement de 90. Donc, l'article 28 donc, s'annule. Donc cette loi du 5 juillet 2000, quant à elle, instaure un cadre obligatoire à la création d'un dispositif d'accueil donc pour toute commune qui dépasse le seuil des 5000 habitants. Et donc en parallèle à l'instauration de l'obligation de l'élaboration de ce dispositif, cette loi donc réaffirme les interdictions et les sanctions surtout qui sont encourues par les voyageurs en cas de stationnement illicite. Donc ailleurs en fait que sur la commune officielle si l'aire d'accueil existe. Voilà, donc j'ai voulu vous donner un petit peu un panorama historique, identitaire et surtout législatif. Je pense que ça va être une bonne transition pour laisser la parole à Christian.
Alors bonsoir. Donc, vous m'aviez posé une question, j'essaie d'y répondre très brièvement. Donc, je m'appelle Christian Kela et j'ai été directeur pendant 20 ans, puisque j'ai arrêté à la fin du mois, d'une structure qui s'appelle l'ADAPGV, Association départementale pour l'accueil des gens du voyage, pour laquelle j'ai été l'initiateur, puisque j'avais été recruté pour mettre en place, donc, puisqu'on doit parler de la situation un petit peu de la Vienne, de localement, pour mettre en place une première structure lié à la loi 90, qui était donc un centre social sur ce qu'on appelait le district de Poitiers. Donc pratiquement 20 ans, je suis arrivé en 92. Donc je quitte ces fonctions. Je reste cependant extrêmement attentif à, et intéressé pour une continuation, puisque, comme je le dis, en fait, 20 ans après, je ne sais pas tout. J'ai plein de questions, je n'ai pas toutes les réponses. Et un vieux Manouche me disait, que je connaissais bien du côté de Saint-Jean, il me disait à l'époque, de toute façon, je ne cherche pas tout à comprendre. Moi-même, je ne comprends pas tout. Donc, déjà, ça m'a remis un peu dans une situation d'humilité en disant, voilà. Donc, c'est toujours une précaution que je prends et de dire à chacun, le fait d'avoir entendu tout ce qu'a expliqué Céline est important, mais c'est non pas forcément fait pour que vous ayez une connaissance, mais plutôt que vous puissiez vous poser des questions pour aller chercher un peu plus d'informations sur une population qui est quand même citoyenne française et est constitutive quand même de ce qu'est la France aujourd'hui et d'une histoire. Donc c'est important de le reciter, je le resitue toujours comme ça parce que je veux aussi qu'on identifie bien, comme le dit Christophe Robert, ces étrangers de l'intérieur, parce que ça reste encore des étrangers de l'intérieur. Donc voilà, et quand vous me disiez, je reprends jeune étudiant, oui... très rapidement, donc je devrais intégrer logiquement le labo de Migrinter et Céline que j'ai eue comme étudiante deviendrait aujourd'hui, je deviens l'élève et elle la maître. Voilà. Je trouve que c'est un beau renversement, mais c'était un des rôles de l'association que d'essayer d'ouvrir un maximum de choses et notamment celui de mieux connaître, c'est-à-dire qu'en fait les gens du voyage, et c'est ce que disait Céline, se connaissent très bien entre eux et se définissent parfaitement bien. Cependant, à l'extérieur, il y a une méconnaissance totale, polluée par un inconscient collectif, une histoire qui a été, jusqu'à ces 30 dernières années, très peu scientifique, pas ethnographique, ni sociologique, ni rien. Depuis 30-40 ans, on a vraiment des historiens, sociologues, ethnologues, chercheurs, comme...
Géographes.
Tu as raison de... qui véritablement sont capables effectivement d'avoir une approche beaucoup plus intéressante. D'autre part, il faut savoir aussi que dans la mosaïque des gens du voyage en France, il y a quand même aussi des universitaires, il y a des gens qui ont des fonctions diverses, ils ne sont pas tous sur les routes, c'est pour ça que les comptages sont toujours faux. Donc des gens qui interviennent à différents niveaux, intellectuellement, socio-éducatifs, etc. Ce qui permet aussi, et par le fait associatif, de réintégrer des choses ou de se les approprier ou de les partager. Donc c'est important. Donc le rôle de l'association était celui de permettre de redonner une véritable information à ce qu'on appelle les gradiers, le monde sédentaire. Parce que c'était là où il était la méconnaissance. Donc c'était le lien indispensable. Et dans ces liens, il y avait effectivement une préoccupation qui m'apparaissait quand même urgente. C'était de pouvoir répondre aux étudiants qui avaient un questionnement ou un travailleur social. Ça commençait un peu comme ça, puis au fur et à mesure. Voilà pour le rôle de l'association, brièvement. Donc l'association continue. Donc elle continue son rôle avec ses missions sur l'ensemble du département. Pour ma part, je m'intéresse, j'ai une page d'histoire qui n'est pas évoquée, on apparaît ce matin, qui est suite à la guerre d'Algérie, soit retour 62, le monde gitan. Alors quand je dis gitan, entendez bien ce qu'a dit Céline, c'est en fait on a dit les Moinouches, les gitans, les Roms, le monde des gitans c'est les Calais, c'est ceux qui sont arrivés en Espagne en 1425 et qui ont après, suite à différents dispositifs de loi, se sont retrouvés sur l'Afrique du Nord et se sont retrouvés à un moment donné en Algérie et sont devenus français. Tony Gatlift, cinéaste, fait partie de ceci. Voilà. Donc voilà. Donc je vous ai présenté ça très rapidement. Pour Silcom, je suis dans le côté pragmatique, c'est bien ça. Donc il est important, à travers tout ça, de mesurer à quel point toutes ces questions de vie ancestrale, d'inconnu, de mythe, font que, de toute façon, soit que c'est passionnel, par intérêt, soit que c'est irrationnel, mais c'est toujours, effectivement, quelque chose qui est, suivant les cas, qui reste de l'ordre problématique. Alors, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une situation de citoyen, une situation connaître, et des pages d'histoire qui, très souvent, et une partie de population qui sont inconnues. Si nous sommes là ce soir, et je remercie Céline de m'avoir fait confiance pour l'accompagner, c'est aussi l'essentiel, c'est que vous puissiez repartir avec toutes ces questions. Donc, elle m'avait dit, Céline m'avait dit, donc je suis la doctorante, là, quand même, je suis élève sérieux, de parler quand même de notre territoire, du territoire de la Vienne, notamment, et du Poitou-Charentes, parce qu'on ne peut pas limiter le territoire, on ne peut pas le borner comme ça, forcément. Brève histoire de ce territoire. Ce territoire a été conquis dès le XVe siècle, comme l'ensemble de notre territoire national, arrivé 1423-1419. Voilà. Donc, les mêmes choses se sont passées au fur et à mesure, et la Vienne, comme le Poitou-Charentes, a été concerné aussi par ces passages. Nous le savons par les textes, des chroniqueurs, de nombreux documents administratifs, des archives municipales ou paroissiales. Puisque, je ressouligne ce que disait Céline, c'est de la tradition orale, il n'y a pas d'écrit et ce n'est pas eux qui ont écrit. Donc il fallait bien se référer à d'autres références écrites qui étaient celles dont je vous cite. Dans ces temps-là, les groupes de voyageurs étaient appelés compagnies nomades. Alors, juste quelques dates que j'ai relevées. On évoque des compagnies nomades en 1498 à Angers et en 1483 à Bayonne. Pour vous dire, donc là, j'ai pris ces deux distances pour vous dire qu'en fait, il y a bien eu des axes de circulation et des circulations. Pour vous dire que ça remonte à loin. Ils sont aussi signalés dans le centre à Orléans, fin 18e. Commencent les grands pèlerinages. Alors, de nouveau, on y reviendra un petit peu, mais les pèlerinages, aujourd'hui, sont différents sur les grands rassemblements. Mais déjà, il y avait ce principe de grand pèlerinage qui était plus d'ordre catholique. Aujourd'hui, c'est plus d'ordre évangéliste. Et Vaud de Foltier cite dans un de ses livres, « Mille ans d'histoire des Tziganes », des groupes de bohémiens venant du Poitou ayant traversé l'Anjou. Donc, vous voyez, on cite déjà dans les pages d'histoire, quand on veut les relire et les rechercher, l'existence et la vie de ces habitants, quelque part, même s'ils sont circulants et s'ils sont là que ponctuellement, n'empêche qu'ils font partie, à un moment donné, de l'histoire et en termes d'habitants. Donc c'est une définition, d'ailleurs, qu'on avait prise au niveau de l'association, c'était de dire qu'en fait, ce sont des habitants, même ponctuels, à un moment donné, à partir du moment où il y avait une loi rectifiée en 2000 pour l'accueil, on considérait qu'à partir du moment où les gens résidaient quelque part pendant un certain temps, la l'égalité républicaine, c'était de considérer non pas comme quelque chose d'étrange ou une étrangité, mais de dire ils sont habitants à un moment donné, donc ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Ce qui me paraît être aussi important, puisqu'on en oublie, on oublie toujours un petit peu ces deux fondements-là. Donc on retrouve aussi dans un autre document l'histoire d'une bohémienne interrogée par la maréchaussée d'Angoumois. En 1721, et se disant être la fille naturelle du seigneur de Culan. Alors, j'ai repris cet exemple parce que très souvent, et pendant très longtemps, l'ensemble des compagnies nomades, comme il était dit, ont souvent été des gens d'armes. D'armes ou de guerre. Hein, pour les comtes de nobles, de ducs, de marquis et autres. Donc ça a été une grande partie de leur histoire, parce qu'ils savaient parfaitement bien élever les chevaux, parfaitement combattre, s'occuper des armes et autres. Donc c'était un peu des mercenaires. Donc quand on dit, se disant être la fille naturelle du seigneur du Culan, il s'avère que oui, c'est vrai, et qu'il y a eu aussi des mariages, donc très tôt, des mariages avec aussi des parties nobles. Et la relation, et Vaud de Foltier, qui est un noble, avait cette relation-là, comme beaucoup d'anciennes familles avaient des relations avec plutôt les gens des noblesses et les châteaux. Et ce sur quoi c'est intéressant après, sur les comportements et les compréhensions qu'il peut y avoir et les réactions, même aujourd'hui, d'inconscient collectif, c'est que cette situation les a fait plutôt mal apprécier de la part de la paysannerie locale à ces moments-là, mais aussi des autorités royales, puisque les conflits étaient à deux niveaux et que chacun voulait garder son territoire. Donc ils se sont trouvés dans une situation intermédiaire, et là ils se sont effectivement déjà mis dans une situation qui a créé cette espèce d'inconscient collectif. Et quand on parle avec des voyageurs, quels qu'ils soient, c'est vrai que l'autre, c'est soit le gadjo, soit le paysan. Parce que le paysan, en plus, il est attaché à sa terre. Le noble n'est pas forcément attaché. Le paysan est attaché à sa terre. Le voyageur, lui, en revanche, est libre. Donc, voilà, par exemple, des regards, si vous voulez, qui vous font comprendre peut-être pourquoi, des fois, certains comportements. C'est là-dessus, moi, je me suis attardé très longtemps au niveau de l'association, qu'on ait ces regards-là pour essayer de mieux traduire aussi la question qui était posée ou le besoin qui était demandé, exprimé. Voilà, donc le territoire de la Vienne et du Poitou-Charentes, ce territoire d'autre part, s'il a été marqué comme tous les territoires et l'ensemble national, il est marqué par des événements qui sont liés notamment à une situation historique, celle des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'y a pas qu'ici, mais ici, ça a été quand même relativement lourd. Il y a effectivement une existence de ces conséquences-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu donc la création des camps d'internement. Ces camps d'internement, donc pour ce qui concerne Poitiers, étaient route de Limoges. Sur la route, là, vous avez une stèle à Poitiers. Le camp des Alliés à Angoulême et celui de Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire. C'est-à-dire en fait, donc vous aviez... Après, il y a eu, à un moment donné, en 1940, des petits rassemblements, mais les grandes parties d'internement se sont faites à ce moment-là. Donc, à Poitiers, le camp d'internement rassemblait et les familles juives et les familles yézidis. Les familles juives ont été déportées. Les familles yézidis, elles, ont été transférées, surtout sur Montreuil-Bellay. Très peu, en fait, on a très peu de déportations. Il y en a eu quelques-unes, mais il y a eu très peu de déportations de voyageurs. Alors, je dis Zigane, Jean de Voyage, mais ça, c'est par facilité. En fait, c'est pas... Jean de Voyage, nomade, c'est un mot noble qui exprime bien l'effet de l'itinérance et pas de l'errance. Le nomade, c'est quelqu'un qui part d'un point à un autre, je reprendrai, qui part d'un point à un autre pour une raison qui est extrêmement précise. Un voyageur s'en va jamais par hasard d'un point, s'en va jamais par hasard, donc il est toujours sur un processus d'itinérance et pas d'errance. C'est ça la différence. C'est important parce que on peut dire il circule dans tous les sens. Non, il y a des raisons précises, des sens de territoire. Donc on a été transférés, donc ces familles ont été déportées, transférées donc à Montreuil-Bellay, qui est devenu donc un des camps les plus importants du territoire occupé. Il faut savoir qu'à la libération, ils ont été libérés qu'en 1946. C'est-à-dire qu'on les a complètement oubliés, l'administration a complètement oublié qu'ils étaient internés, et eux sont restés dans les camps. Et en 1946, un jour, à un moment donné, il y a une préfecture qui s'est posé la question, je crois que c'est du côté de Gerjou, qui s'est posé la question, mais il faudrait peut-être... et ils sont repartis sans rien, puisque de toute façon, on leur avait tout volé, tout brûlé, tout enlevé, les chevaux ont été réquisitionnés, etc. Donc certains sont... Quand je rappelle ces pages d'histoire, et notamment cette page d'histoire sur l'ensemble de ce territoire-là, c'est parce qu'un certain nombre de familles sont restées là. Donc l'histoire de ce département, comme du Poitou-Charentes, s'est faite aussi en fonction de ces camps d'internement. Vous avez des familles qui arrivaient du camp de Mérignac, qui se sont retrouvées, parce que Montreuil-Bellay, c'est un camp qui était fait au départ, surtout pour les réfugiés espagnols, pas pour les Espagnols républicains, qui a été réemployé après pendant toute la guerre. Donc en fait, un certain nombre sont restés ici. Donc des familles sont restées soit sur Poitiers, soit sont installées à Châtellerault, soit à Neuville, soit dans les environs. Très peu de familles sont reparties sur leur lieu d'origine. Donc voilà aussi comment on peut avoir sur le territoire national les mouvements et les raisons de mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, en dehors du fait que le voyage est quelque chose, une nécessité commerciale, familiale, économique, etc. Là, par exemple, voilà pourquoi il y a eu ce type de mouvement et comment a été constitué ou reconstitué un petit peu le territoire de la Vienne, le territoire du Poitou-Charentes, parce qu'il y a eu ces effets-là. Donc c'est important de reprendre l'histoire, et comme quoi l'histoire, elle existe, même pour les gens du voyage, et comme quoi elle est créatrice quand même d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'effets. Donc c'est important qu'on reprenne toujours ça. Et ces pages d'histoire sont récemment écrites, parce que les premières pages d'histoire concernant Montreuil-Bellay a dû être écrite à peu près en 88-89, révélation du camp de Montreuil-Bellay par un instituteur du coin, Jacques Sigaud, qui s'était posé la question de savoir pourquoi il y avait des barbelés, pourquoi il y avait des choses à Montreuil-Bellay. Et ça a lancé tout le processus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Et du coup, on a des pages d'histoire qui s'écrivent. Les derniers témoignages vivants ont été à peu près protégés. Et donc maintenant, bon, on peut retrouver un certain nombre de choses beaucoup plus. Mais une page d'histoire est réécrite et on redonne là la situation de citoyenneté, la situation de citoyen français à des gens du voyage qui ne l'avaient pas, puisque même pas la reconnaissance d'anciens combattants, ni déportés, ni rien. Complètement inconnu de tout aspect administratif. Alors il faut comprendre, de toute façon, dans le monde du voyage, le présent, il est fait d'un passé. Et ce passé, on n'en parle plus, les moulots, ce qu'on dit, les moulots. Donc, en fait, on n'allait pas parler effectivement des morts. On n'en parle pas. C'est comme ça. C'est un principe de pensée. Donc, ce n'est pas eux qui allaient en parler. Les jeunes aujourd'hui, donc les jeunes qui sont pratiquement les petits-enfants, sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus partie prenante pour savoir un peu plus sur ce que n'a jamais dit le grand-père ou la grand-mère, etc. Donc, voilà aussi comment les pages d'histoire peuvent s'écrire au fur et à mesure. Et elles sont délicates parce qu'aujourd'hui, elles sont scientifiques, elles sont plus universitaires. Donc, elles sont faites sur du document. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement sérieuses. Et en plus, pour beaucoup de voyageurs, comme souvent ils me disaient ou ils nous disaient à l'association, écoute, c'est mieux que ce soit toi qui en parle parce que moi, je ne vais pas en parler. Bon. Donc, il y a une délégation à l'autre de pouvoir parler parce qu'on ne peut pas parler forcément de l'autre. On parle de sa famille, mais on ne va pas forcément parler de l'autre famille. Donc, de ne pas parler de certaines situations, eh bien, c'est vrai que le fait associatif, notamment, le fait d'historien, le fait qu'il y ait des doctorants qui permet et d'interroger, bon, quand tu interroges les uns ou les autres, c'est vrai que la parole se libère plus facilement parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de confiance quand même à ce niveau-là et qu'elle permet de retranscrire et de dire un petit peu ce que certains ne vont pas vouloir dire pour toute une série de raisons, hein, d'ailleurs. Donc je disais, dans ce département, alors on va revenir sur le département, rien d'homogène comme partout et comme sur le territoire national au niveau des gens du voyage. Sur le Châtel-Rodet, on a tout d'abord une forte influence et circulation qui sont liées au bord de Loire et au château. Donc beaucoup de groupes en ouche se sont installés là, beaucoup de vanniers. Donc on a sur Châtellerault plutôt une population, enfin il y a une population manouche assez traditionnelle, assez forte quand même. Voilà. On a aussi sur la même communauté, sur la communauté d'Aglo, enfin sur les environs de Châtellerault, une grosse communauté gitane, les Calais, gitans andalous, d'origine andalouse, parce que la dénomination elle est catalan ou andalou. Ça c'est une manière de dire un petit peu d'où est chacun. Mais bon, l'Aragon fait partie, il y a les Aragonais aussi. Donc là, il y a une grosse communauté gitane, avec d'ailleurs avec toutes les traditions du chant et du flamenco. Donc il y a des familles porteuses de ces traditions-là. Donc sur Châtellerault, il y a vraiment ces deux gros ancrages caractéristiques, manouche et gitan. Il y a une troisième partie dont on ne sait pas forcément, qui serait ce qu'on appelle les Yéniches. Il y a une population qui, pendant la guerre de 30 ans, a fui l'Allemagne, mais en même temps circulé ce qui est devenu aujourd'hui les Manouches, qui ont été internés. Donc il y a une partie de famille qui n'arrive pas trop bien à se définir. Moi-même, je ne suis pas trop arrivé. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on a tellement le nez dans le guidon, on n'a pas le temps forcément d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je suis content, là, de pouvoir maintenant profiter de mon temps de liberté pour aller chercher un peu plus de choses. Donc il y a une population qui est plutôt d'ordre yéniche, qu'on retrouve sur la rue d'arrière. Donc voilà comment elle est constituée un petit peu Châtellerault. Sur Poitiers, c'est des familles beaucoup plus mixtes, des familles de forains, des familles de fêtiers, mais un grand nombre quand même avec des origines manouches, certaines. Je n'ai pas de connaissance d'influence gitane, de groupe gitan sur Poitiers. Alors après, c'est ce que disait Céline, c'est important parce que suivant ce que vous entendez, ils vont vous faire plaisir. Si le mot gitan vous convient, il va vous dire qu'il est gitan. S'il s'aperçoit que manouche est un peu difficile ou ça ne va pas, il va se dire voilà, je suis voyageur, je suis gitan. Eux, ils savent exactement la définition là où ils sont. En revanche, par rapport à la discussion à l'égard de l'autre et des gradiers, ils vont employer le mot qui va sembler. Voilà. Tzigane, ils le refusent quand même. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas beaucoup, ça, pas du tout. Voilà. Parce que pour eux, c'est ce qui se passe dans l'Europe de l'Est. Et même s'ils savent que la cousinerie est existante, même s'ils savent qu'effectivement, tout ça, c'est une grande histoire depuis 1000 ans, ça n'empêche que, de toute façon, l'appartenance, quand même, à la nationalité, enfin, en tant que citoyen français, même si c'est du second ordre, un gitan, il est d'abord gitan avant d'être. Mais ça n'empêche que, de toute façon, il est français. Ils savent faire la main, ils savent faire parfaitement l'équilibre des deux choses là-dessus. Voilà. Alors ensuite, nous avons des territoires ou des polygones de vie qui sont un peu plus complexes, comme Civray. Civray et Confolens. Là, vous avez effectivement des familles qui sont là depuis un certain temps, qui sont plus résidentialisées. Alors, je ne parle pas de sédentarité ni de sédentarisation, parce que ça, c'est le mot qu'aurait voulu le législateur pendant des années. Qui a toujours échoué, pour lequel le législateur a toujours voulu. Bon, il se trouve qu'au niveau national, il y a une fédération nationale avec l'étude de Tzigane et la FNASAT, une fédération nationale des associations. C'est vrai qu'il y a un concept un petit peu qui est sorti par rapport à l'habitat, qui était plus la résidentialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réside. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit de fixité. Le fait d'être sédentaire, c'est le fait d'une fixité, ça, c'était pas entendable. Donc, ça pouvait ravir effectivement les écrits du législateur, sauf que ça n'a jamais marché. Donc on a des familles qui sont plutôt résidentialisées, voire depuis deux ou trois générations. Mais ce qui ne change rien sur le fond, et Céline le disait aussi, parce que l'appartenance au groupe, le principe et la manière de penser est de toute façon un état. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément de circuler pour être voyageur, pour être gitan ou pour être manouche. On peut très bien être installé quelque part, et c'est pas pour autant que de toute façon la conception de la famille est toujours le principal fondement. La famille, c'est l'économie. C'est-à-dire, on fait pas d'économie sans famille, et la famille ne peut pas vivre sans l'économie. Ces deux principes-là sont intimement liés. C'est pour ça qu'il y a une très forte résistance, et qu'en fait, ce qui était assez extraordinaire, c'est l'acculturation. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu tout faire, c'est-à-dire acculturation ou assimilation, et ça n'a jamais fonctionné puisqu'ils sont toujours restés en résistance quelque part, et que depuis quand même le 15e siècle, on est toujours sur les mêmes principes de fonctionnement, sur les mêmes principes de pensée et autres. Donc c'est important de le savoir, parce que c'est pas la peine de se battre contre du vent, quoi. Je veux dire, la résistance, elle est réelle, et il n'y a jamais eu d'osmose véritablement. Je pense que c'est plus le monde majoritaire qui a pris, notamment sur la langue française, la langue française est faite d'un certain nombre de mots du manouche à l'origine. Hein. Par exemple, bon, je vous cite, par exemple, avoir peur, c'est avoir la trache. Hein. Mais comme il y a eu le monde forain, les mondes des fêtiers, les saltimbanques, tout ça, c'est devenu le trac. Voilà. Donc, par exemple, comment les mots, le couteau, c'est une tourine. Et au fur et à mesure, il y a le surin, qui est, voilà, donc vous avez plein de costauds, etc., il y a plein de mots qui sont passés dans le langage et qui sont francisés au fur et à mesure. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup plus apporté à un moment donné sur un certain nombre de choses que l'inverse. En revanche, quand on parle, il est dit, bah, il faut les intégrer, il y a longtemps qu'ils sont intégrés, ils connaissent parfaitement tous les marchands, tous les forains et tous les communs que je peux avoir, connaissent parfaitement le tissu et commercial et circulatoire et des villes et autres. Donc de toute façon, voilà, donc on se trompe un peu à chaque fois, quoi, c'est ça. Voilà, donc je parlais, pour revenir, Civré, Confolens, des familles ancrées, beaucoup plus pauvres et même dramatiquement pauvres, ce qui est très rare quand même, parce que. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie du déplacement, du voyage, de la rencontre familiale, du baptême, du mariage, de l'enterrement, c'est l'énergie qui permet effectivement aussi de commercer, d'être dynamique. Ceux qui sont restés, ceux qui restent un petit peu la caravane engluée là, très souvent perdent, non pas l'identité, mais perdent les notions, un certain nombre de notions. Et donc cette yole, et là, on a des familles qui économiquement sont dans une situation particulièrement difficile. Alors après, on a plutôt sur Loudun, vous avez là, on est plutôt dans le Saumurois. Loudun, c'est déjà, donc on a là aussi beaucoup de groupes en Ouche, très liés à la Bretagne, par exemple. Donc on a là aussi une toire. Voilà, c'est un peu un autre axe de aussi de trajet. Donc vous voyez, en fonction des lieux, on ne peut pas avoir la même réflexion ni agir de la même façon. Sur Poitiers, on a une dynamique globalement économique où les familles sont relativement indépendantes, etc. Sur Châtellerault, on a des familles qui sont plus en difficulté. Comme quoi, à 30 km, on peut pas traiter, on peut pas répondre de la même manière et on peut pas voir la même histoire non plus. Parce que l'histoire de Châtellerault est différente de celle de Poitiers. Et ça, c'est important. Et l'erreur qui est faite très souvent, c'est de vouloir penser que, de toute façon, les gens du voyage en France, c'est tous la même chose, qui est une erreur fondamentale. C'est la première erreur que fait tout législateur ou très souvent les hommes politiques. La chance ici, c'est qu'on a eu en 92, donc voilà, je vous ai expliqué à peu près le schéma. L'autre particularité, puis je vais revenir sur... l'autre particularité, c'est qu'on a un département qui est quand même traversé par les RN10, donc un grand axe de circulation, Paris, Bordeaux, etc., qui aujourd'hui a un autre intérêt, c'est qu'il va plutôt sur La Rochelle, etc., là, sur de l'économie marchande, notamment l'été. Donc, beaucoup de circulations qui se font parce que le bord de mer, eh bien, il est économiquement intéressant. Donc, on a une autre forme de déplacement. Et une autre croisée de chemin qui est celle de Nantes-Limoges, qui sont aussi des grands axes de circulation. Alors aujourd'hui, ces grands axes, et très rapidement au niveau de la circulation, font qu'il y a des choses qui bougent un peu, c'est par l'effet de religion. Je vous ai parlé de la religion au 18e, quand elle a commencé avec un certain nombre de rassemblements. Bon, alors on parle traditionnellement des Saintes Marie de la Mer, ou de Lourdes. Mais une deuxième religion aujourd'hui pèse son poids quand même, c'est celle des évangélistes qui ont adopté le principe des grands rassemblements, donc de se retrouver à 50, 60 familles, 70 familles, de s'installer une semaine ou 15 jours par lieu, c'est déterminé, hein, il y a une organisation nationale, où là il y a un chapiteau de montée et où il y a effectivement la relation avec la religion. Donc ces déplacements-là sont quelque part un peu nouveau depuis 5-6 ans, 10 ans, prennent beaucoup d'ampleur. En plus, c'est-à-dire que le poids du nombre fait que, de toute façon, on peut imposer un peu plus. Ils ont bien compris que si on était 3, on se défend mal. Si on est 50, on se défend un peu mieux, quoi. Donc voilà, donc il y a eu ces négociations. La loi Besson 2000 reprend quand même en compte cette particularité-là, quand même, avec beaucoup de difficultés sur l'application. Donc ça, ce sont des facteurs qui, aujourd'hui, changent un petit peu les donnes aussi des déplacements. Voilà. Donc on a parlé très rapidement, tu as parlé de la loi Besson, 90, qui a mal été appliquée parce qu'il y avait que les départements qui étaient signataires. Non, les départements n'étaient pas signataires, il n'y avait que l'État, je crois. Alors que la loi 2000 obligeait la co-signature du département et de l'État. Ce qui fait que là, on a pu tourner un peu moins autour du pot. Mais quand même. Il faut savoir, puisque je dois parler un petit peu de ce qui se passe ici, que la Vienne aujourd'hui, c'est un des dix départements, c'est les 10 premiers départements qui ont un schéma départemental qui est complètement résolu ou qui se finit de se résoudre, mais qui est effectivement dans la résolution à 100% de ce qui était prévu. Ça veut dire que quand même à côté, il y a des espaces de vide. Oui, il y a des espaces de vide, parce qu'on est à peu près à 45% de réalisation du nombre d'aires d'accueil nécessaires sur le territoire national pour le stationnement. Donc, vous voyez, donc on dit on traite certains délinquants, mais quand même, certains sont hors la loi, et je commencerai par les élus, les maires, conseillers généraux et autres, qui n'appliquent pas la loi.
Ça fait 11 ans, quand même.
Ouais, voilà. Et qui se permettent quand même de faire valoir, de signaler qu'il y a un stationnement illégal, qui vont faire intervenir la troupe, enfin la gendarmerie et autres, alors qu'en fait, bon, mais après, il y a les procédures judiciaires, et ils perdent, mais parce que là aussi, bon, maintenant, il y a un circuit d'avocats, les associations nationales, enfin bon, il y a plein de choses. Mais voilà, donc si on voulait un territoire paisible, bah, il s'agirait effectivement, mais ce n'est pas propre aux gens du Ouest, je l'en parle des gens du Ouest, donc c'est vrai que c'est relativement remarquable, mais pour une population qui n'est pas aussi importante que ça quand même, eh bien en fait, le problème n'est pas forcément résolu. Il y a une désobéissance civile de la part d'élus et des responsables, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 44% quand même d'un territoire qui n'est pas quand même aménagé. Donc ne nous étonnons pas qu'à des moments donnés. Donc ça, ceci ne veut pas dire que tout doit se comprendre, mais ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que des gens stationnent peut-être mal ou autre, eh bien, c'est que tout simplement que la loi n'est pas appliquée. Donc voilà, donc on peut toujours condamner une caravane qui est mal stationnée, mais si on ne sait pas pourquoi elle est mal stationnée, c'est vrai qu'on peut être en faux. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de la désobéissance de la part de certains voyageurs qui sont récalcitrants un petit peu à leur public, mais bon, il y en a quelques-uns, mais ça c'est partout, qu'on soit dans les cités ou en centre-ville, de toute façon vous avez toujours un chauffeur de voiture ou autre qui ne va pas forcément observer non plus la règle. Donc il n'y a rien de particulier à ça. Ça, c'est un comportement humain, mais qui n'est pas plus dramatique qu'ailleurs. Il n'y a pas plus de délinquance non plus. Juste pour dire qu'en termes de délinquance, quand vous avez 10 délinquants sur un département, par exemple, si je prends le cas ici, et qui vont vous faire 5 méfaits dans l'année, donc ça en fait 50, alors il y a les chiffres de la police, soit qu'on prend les 10, mais ça, ça ne fait pas assez, donc on prend plutôt les 50 délits et on met 50 délinquants au bout. Donc, vous voyez comment on peut modifier des chiffres. Bon, donc il y a un calcul malhonnête aussi sur les effets de délinquance parce qu'ils sont pas, il y en a pas plus en maison d'arrêt que d'autres. Je sais pas les chiffres exacts. Comme on n'a pas le droit forcément, par définition, comment dirais-je, ethnique ou autre, de définir. Donc on a des chiffres qui sont les chiffres que l'on peut connaître par professionnellement ou autre, mais qui sont pas des chiffres qui sont, on est dans les 5% d'une population, donc il n'y a pas plus de dix. Voilà, bon, schéma départemental, donc ben, je vous ai à peu près tout dit, c'est vrai, juste pour dire, puis là je vais arriver à l'heure, 3 minutes, oui. Très bien, non, juste les schémas départementaux, pourquoi est-ce que ça a fonctionné plutôt sur la Vienne? Eh bien tout simplement c'est parce que là aussi il y a eu des volontés politiques et que le fait de l'association comme le fait de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire de la Vienne mais du Poitou-Charentes, c'est des volontés politiques qui dès 90 ont décidé, et là bon, il faut rappeler quand même un maire qui était centraux, hein, qui a été extrêmement volontaire et très en avance et qui a permis effectivement de lancer une opération avec la création, c'est pour ça que j'avais été recruté à ce moment-là, donc voilà, donc et je pense qu'à partir du moment où il y a une volonté politique avec ces règles, mais que derrière, il y avait aussi la demande de la Caisse d'allocation familiale pour l'action sociale de compléter le dispositif. Il est évident qu'aujourd'hui, au niveau de la Vienne, on est dans une situation assez particulière, puisqu'elle est relativement bonne, qu'on est capable de faire des pages d'histoire, qu'on est capable ce soir d'être devant vous, que Céline, si elle est là, bah, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il y a certainement son parcours, mais que l'association a pu, à un moment donné, peut-être répondre à ces questions, comme d'autres. Et comme d'autres travailleurs sociaux, comme d'autres étudiants. Et je pense que tout ça fait du lien. Voilà. Donc rapidement, voilà la situation de la Vienne, puisque c'était l'explication que je devais principalement donner. Quant aux chiffres, alors moi je suis très méfiant sur les chiffres, parce que qu'est-ce que ça représente pour nous? Je vois, j'ai une collègue en fond. Mais bon, je pense qu'on est à 2-3 000 personnes à peu près nous reconnus sur connus plus ou moins liés à l'action de l'association ou connus comme ça, mais sur le département il y a quand même et d'autres qu'on connaît moins bien ou autres, voilà. Donc les recensements, c'est vrai qu'ils sont pas possibles à faire en tant que tels, et puis ceux qui ont des adresses sont pas forcément recensés, donc on s'arrête beaucoup sur les carnets de circulation avec la domiciliation sur les communes. Donc ça, c'est l'intérêt du législateur de diminuer le nombre, parce que moins il y en a, moins c'est préoccupant. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, nous, sur l'ensemble des familles qui sont connues sur le territoire de la Vienne, c'est quand même 50%, 51%, je crois, 50% de moins de 20 ans. Donc on est sur une pyramide des âges, vous voyez, de pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'on est... Donc, moi, j'entendais depuis 33 ans, j'entendais 300 000. Alors, on disait, ils sont 300 000. Alors, 300 000, si vous dites qu'il y a 50% de moins de 20 ans, il y a un problème quand même quelque part, surtout qu'il y a quand même du vieillissement qui se fait plus... qui commence aussi à apparaître. Voilà, j'en arrêterai là. Pyramide des âges, bah oui, une large pyramide indique un taux élevé de natalité, beaucoup de jeunes enfants, avec des familles quand même qui se réduisent. C'est-à-dire les familles qui étaient de 8 ou 10 sont à 4, 5. Enfin bon, les familles sont moins. Cependant, bon, il y a beaucoup de jeunes et ils sont très rapidement parents. Un père a une vingtaine d'années, 20, 21 ans, la mère a 18 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu aussi... ça va très vite dans l'agrandissement de la famille. C'est important parce que c'est... Voilà. Mais écoutez, je répondrai plutôt aux questions pour la suite. Je vous remercie.
Les questions sont à la salle. Quand même.
Je ne sais pas, je t'ai suivi.
J'ai posé une double question. Là, vous avez employé le terme de circassien pour au 19e siècle. Qu'est-ce que ça recouvrait? Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Enfin, puisqu'apparemment, ce sont...
C'est les gens du cirque, hein.
Ah, d'accord. Oui. Oui. C'est circassien.
C'est comme aussi, les fêtiers.
C'est les aussi fêtiers. Une peuplade, un peuple du Caucase. Si oui. Je...
Oui. Non, mais là, c'est essentiellement les gens du cirque, en fait.
Et puis, deuxièmement... je voudrais savoir où en est la pratique de du roman échavé, enfin de la langue des gens du voyage. Enfin actuellement, je crois qu'il n'y a guère que 10 à 12% de la population qui le parle encore. Est-ce qu'on a pris des mesures pour...
Au niveau du langage, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une origine qui est plutôt soit... du langue qui était parlé sur c'est le Sinti ouais. Non le sanskrit, sur la base du sanskrit, oui. Voilà. Et ça après si vous voulez il y a 200 ans en Perse, hein, dans le trajet ils sont arrêtés en Perse, l'Iran actuel, là il y a eu emprunt, modification du langue. Donc en fait il y a des mots résiduels qui sont pratiquement employés un peu partout dans l'Europe, mais après vous avez des différences quand même importantes sur les mots. Alors la seule chose qui permet un certain nombre de, dans les vieux surtout, de pouvoir communiquer reste la phonétique et le, je dirais pas le grammatical, mais là bon, je suis moins doué là-dessus. Mais voilà, bon, c'est, mais beaucoup de mots, par exemple chez Manou, chez Gashkane, vous avez wagon pour dire voiture. Bon, wagon, la voiture n'existait pas puisque avant c'était les chevaux, éventuellement même sans les chevaux avant il y avait que les tentes, hein. Vago, c'est la voiture, et wagon, bon voilà. Donc vous avez des mots qui sont réempruntés comme ça au fur et à mesure. Drôme, quand on vous dit la chodrome, bonne route, bon ben la chou, oui, c'est l'origine même, mais drôme, en fait, c'est un mot grec, c'est-à-dire c'est le circuit, voilà. Donc attention sur toutes ces modifications. Donc le langage, il est relativement compliqué et modulé, c'est-à-dire qu'après, si on part sur tout le monde décalé, c'est-à-dire l'héritage espagnol, Là, c'est pareil, il y a une influence lourde de la langue espagnole, ce qui fait que des mots sont modifiés. Ça n'empêche que, de toute façon, il y a des mots traditionnels qui restent, comme le môle, qui est le vin, des velles, le dieu, panis, l'eau. Il y a des mots, quand même, qui restent globalement tout le temps employés un peu partout, mais pas tous. Après, il y a des choses et des prononciations qui se modifient. C'est pour ça que l'histoire de Rome-Europe, moi, j'y crois pas beaucoup. On essaie de donner une identité européenne à ça, sauf que c'est vrai que chez les Roms, il y a plus d'intellectuels, enfin d'anciens intellectuels, parce qu'ils sont apparus plutôt sous le régime communiste Et donc, on a effectivement des têtes pensantes, députés, chefs de clinique, j'en connais en Slovaquie, qui sont chefs de clinique, etc. Enfin, bon, des Timorais. Ce qui ne sera plus le cas, parce qu'en Hongrie, où il y avait quand même des intellectuels remarquables, etc., aujourd'hui, on a plus de 70% d'analphabétisation quand même, parce qu'ils sont, depuis l'ouverture et tout, sont complètement abandonnés, voire lâchés. Donc, c'est une population qui est misérable à l'extérieur. C'est impensable ce qui peut se produire. Donc, Rome Europe, c'est une manière d'identifier, c'est un peu une manière, c'est un peu une pensée dégorgée. C'est pas forcément la pensée de la globalité, je dirais, de Zigan, si on veut reprendre ce terme-là, parce qu'elle est pas très juste. Voilà.
Je vais juste rajouter qu'au niveau des jeunes, bon, effectivement, au niveau des personnes qui sont un peu plus mûres, d'un certain âge, etc., moi, je pense que la communication et le langage, il existe toujours. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des jeunes, alors peut-être qu'on peut introduire le biais de la scolarisation et de l'école dans nos écoles françaises, en fait, qui influence certainement la remodulation de la langue, etc. Et juste pour illustrer un peu tout ça, avec une étudiante de Paris, on a fait une petite analyse, parce que moi, j'ai travaillé plus auprès de gitans et de manouches. Et elle travaillait en Île-de-France, elle était plus avec des Roms. Et en fait, on s'est essayé à comparer en fait des mots quotidiens utilisés par des populations Roms et par des populations gitanes et manouches. Et effectivement, on s'est aperçu que malgré tout, il y avait les mots, si vous voulez, les plus fondamentaux du quotidien revenaient quand même régulièrement. Bon, ok, au niveau de l'orthographe, il y avait des différences, mais on avait quand même une prononciation qui, sur certains mots, alors c'est sur des mots les plus quotidiens, hein, j'entends, hein, il y avait quand même une prononciation et des mots quand même qui revenaient assez communément entre les trois populations. Voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu ça. Mais je pense qu'au niveau des jeunes, effectivement, je pense effectivement que l'école a été amenée et va être amenée en fait à remodeler en fait les usages de la langue en fait. Voilà.
Donc il y a eu une sorte de fragmentation dialectale au fil du temps,
tout à fait.
On peut dire ça. Mais est-ce qu'actuellement on cherche quand même à essayer de, sinon de revitaliser, au moins de conserver? Est-ce qu'il y a des, à travers des associations, des je ne sais quoi, quelque chose qui permette, si vous voulez, qui serait une sorte de conservatoire de la langue? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure elle se conserve dans les communautés elles-mêmes.
Au niveau local, alors je ne sais pas, Christian, tu pourras peut-être dire ça, mais je sais que, après c'est sur les grandes villes, mais à Paris, il y a ce qu'on appelle des cours de romanie, en fait, qui seraient en fait des cours de langue, une langue qui transcenderait un peu tous les groupes, donc avec des cours ouverts à tout le monde, même au gadget. Mais par contre, après, au niveau local, au niveau des associations, moi, personnellement, j'ai jamais... Ou alors, j'ai des lacunes là-dessus. Mais je ne pense pas avoir... je pense pas qu'il y ait, par exemple, des ateliers où les jeunes puissent se rendre pour, effectivement, réapprendre, en fait, à utiliser la langue. Et je pense que c'est pas... La transmission se fait beaucoup, en fait, entre grands-parents, parents et enfants. Et je pense, effectivement, qu'elle serait plus efficace... Dans cette transmission-là, puisque c'est une transmission traditionnelle, plutôt que effectivement de créer des choses extérieures, en fait, et encore extérieures, parce que du coup, y a beaucoup de choses extérieures qui sont créées à l'extérieur de la population et de la communauté.
Je crois qu'il y a une partie d'intimité et de force des groupes, c'est-à-dire chez les Calderach, sur lequel d'ailleurs on fait reposer la langue romanie essentiellement, c'est le groupe qui est certainement le... celui qui est le plus porteur des valeurs, des traditions et autres chez les Roms. Alors le groupe Calderach, en plus, il a l'ambiguïté qu'en fait, à l'origine, on pense que c'est plutôt un groupe de nobles, indiens nobles, parce qu'on a dit que c'était les parias et tout. C'est les seuls qui travaillent le fer. Pour travailler le fer en Inde, il faut être noble et être auprès, effectivement, de seigneurs, enfin, Maharaja et autres. Donc voilà, par exemple, dans les... Et c'est le groupe aujourd'hui qu'on retrouve au Brésil et ailleurs, qui est un groupe relativement bien constitué, relativement sédentarisé quand même, donc qui peut, par sa fixité, Alors attention, quand je dis fixité, ça ne veut pas dire que, qu'il y a un gros poids, la crise et tout, c'est des choses qui existent chez eux. Donc là, effectivement, il y a bien la répartition. Moi, je connais une fille qui est, dont le père était Rome et autres, hein, qui est universitaire, qui parle très bien dans sa famille. En revanche, donc l'incitation chez Calais, il y a quand même un peu plus de transmission. Aussi familial parce que les noyaux sont relativement stables et solides. Le groupe en nous, c'est plus compliqué. D'abord parce que c'est le plus vieux. Il est là depuis le 15e. Donc, ils sont installés en arrivant en Alsace. Donc, il y a un poids. C'est-à-dire entre les Garches-Canais et Valchiquet. C'est-à-dire déjà, on a à travers ça deux modifications de langue. Et après, les choses se sont déplacées dans le temps et sur la circulation. Donc, on a par exemple sur le bord de la Saintonge, donc ce qu'on appelle la Haute-Saintonge, entre Blaye et la Basse-Saintonge, on a le gabaye. Et ce gabaye, bah, c'est une langue qui est mélangée entre les deux. On va entendre une voyageuse dire bah, « je vais chercher un CO ». Et un CO, c'était employé dans le monde de la campagne, mais c'est aussi employé, c'est pour dire « saut », parce qu'il y a des lettres qui se prononcent toutes comme ça. Bon, vous voyez. Donc voilà, c'est plus compliqué. Donc si on prend, nous, la population qui appartient à l'ensemble de la population française, qui sont essentiellement les Wanous, c'est vrai que là, il y a des différences. Dans le Puy-de-Dôme, dans le Massif central, il y a des vieux groupes Wanous qui sont beaucoup plus porteurs parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont restés plus en fait. Ceux qui se déplacent beaucoup le perdent. En plus, ce qu'on n'a pas expliqué peut-être assez bien, mais il faut savoir que si vous voulez, depuis le 15e, ça veut dire que les gens ont circulé. Mais en même temps, circuler les saltimbanques, les ramoneurs, circuler ont commencé les pièces de théâtre et autres. Donc tout ce métier-là, les aiguiseurs, tous ces métiers-là, à un moment donné, de toute façon, sur la route, se sont rencontrés. D'où un certain nombre de rencontres aussi, de mariages mixtes. Donc moi, je connais c'est des amis, hein, c'est vieille famille foraine depuis 300 ans, mais à l'origine, c'est quand même du monde paysan ou du monde égradier. Alors après, il y a eu les mariages qui ont confirmé, modifié, modulé. Mais là, par exemple, le langage, eh ben, il n'est pas transmis naturellement. Il va être employé par des mots du quotidien, par tous ceux qui sont pratiqués, mais le langage de fond, non. Sur Châtellerault, en revanche, vous avez des groupes en ouche qui, eux, savent parfaitement, chez les vieux, alors moins les jeunes, parce que les jeunes sont pollués par la télé, la bagnole, l'ordinateur, parce que c'est champion hein, en informatique, je peux vous dire que... et ce qui fait qu'en fait, le rôle de l'association, moi, je vais... C'était un peu mon l'enjeu aussi, c'était qu'effectivement, la connaissance générale de l'école, l'apprentissage de la langue, être bien dans la société majoritaire était une chose, mais que le retour dans la famille, ça devait se faire avec, effectivement, non plus forcément, mais de retrouver la langue maternelle quelque part. Et c'est cet équilibre-là qui, pour ma part, et c'est pour ça que ça m'intéresse de continuer sur la recherche ou d'avoir un mot à dire, c'est qu'en fait, si on ne fait pas cet équilibre-là, les deux vont se perdre et les gens vont se perdre. Mais on n'arrivera pas forcément à quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est là où, sur le plan d'un suivi social, dans les associations, on a un rôle de protection, mais pas comme vous l'entendez, de faire à la place d'eux, parce que ça, on ne peut pas. C'est les familles qui déterminent ou non. Donc, mais en revanche, on peut peut-être soutenir, effectivement, ce qui est, à un moment donné, être dans une situation... et l'autre moment où on retrouve les valeurs traditionnelles, quoi. Enfin les valeurs familiales. Je crois que c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Moi, je trouve que c'est le mariage, et je pense que la France, dans sa multiplicité multiculturelle, doit pouvoir quand même savoir permettre ces équilibres-là. Voilà. Bon.
Mais je vous rassure, il y a des jeunes qui sollicitent beaucoup, des jeunes manouches, je dis toi, qui sollicitent quand même beaucoup leurs grands-parents, notamment... justement pour cette transmission, même si à un moment ils ont pu s'écarter et ils ont pu remodeler leur vocabulaire etc. Je pense qu'au bout d'un moment en fait ils y reviennent et ils sollicitent beaucoup en fait leurs grands-parents notamment quoi.
Donc ce qui veut dire que les grands-parents contrairement à ce qui se passe maintenant restent dans les familles jusqu'à leur mort ou ils sont mis en maison de retraite etc.
Il n'y a pas d'imaginaire. C'est vrai que si vous voulez la famille, c'est quand même le fondement même. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse, elle est la famille. Le jour, aujourd'hui, c'est la famille. Ça reste le fond. Alors après, la vieillesse, aujourd'hui, devient compliquée. Parce que d'abord, la moyenne d'âge, il y a encore quelques années, c'était 57 ans. Hein, bon, donc un vieux, il vieillissait assez naturellement. Et puis quand il mourait, il mourait. Mais aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est malade d'Alzheimer ou autre, c'est vrai que pour les familles, c'est une nouvelle, c'est quand même quelque chose qui est de nouveau, qui est difficile. Donc même s'il y a toujours la volonté à un moment donné de rester, de garder le vieux à la caravane ou à la maison, à un moment donné, bah, comme pour tout le monde, ça devient difficile. Donc il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Je pense qu'il faut laisser le temps que ces stratégies se mettent en place. Mais par exemple, vous avez à Poitiers, du coup, pour la région, le pôle de cancérologie, il est regroupé à Poitiers. Avant, c'était réparti entre La Rochelle, etc. Bon. Donc les malades du coin là-bas allaient à La Rochelle, d'autres ici, ou à Bordeaux. Bon. Là, maintenant, non. Donc quand il y a un malade, notamment du cancer, qui est quand même grosse maladie, il faut savoir que ce n'est pas que le malade qui est intéressant, c'est la famille qui est malade en même temps. Donc la famille va être là. Ce qui fait que ça vous fait, à des moments donnés, de regroupement de 50 familles globales, parce qu'on ne laisse jamais quelqu'un tout seul. Jamais. Voilà. Donc tout ça, ces valeurs restent. Après, il y a l'aménagement par rapport à des handicaps qui sont extrêmement lourds. Et là, c'est vrai que ça apparaît parce qu'il y a un vieillissement aujourd'hui. La santé permet quand même... les conditions de travail sont différentes, les conditions de transport sont différentes. Même si c'est pas toujours avec des grosses garanties de sécurité, mais donc ce qui fait qu'il y a des vieux qui vont de plus en plus loin. Et ces vieux allant de plus en plus loin, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui apparaissent, notamment le diabète. Il y a le diabète, il y a des je pense cardiaque aussi, mais surtout le diabète par exemple, c'est quelque chose qui est terrible qu'on voit beaucoup. Vous voyez, c'est des choses aujourd'hui. Qui se module. Donc, donner une réponse très précise, moi, je ne la donnerai pas. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Mais comme au niveau technique, vous verriez les jeunes aujourd'hui sur informatique, hein, on dit qu'ils vont pas aller connaître rien, mais je peux vous dire que les sites, les blogs, etc., chercher la pièce de voiture qu'il faut avec l'ordinateur, je peux vous dire qu'ils vont 10 fois plus vite que... Non, c'est un... Donc, tout dépend ce qu'on a... qui est l'intérêt. Voilà, on s'approprie ce qui va être un... Donc, comment on va pouvoir s'approprier la maladie du très vieux et comment on va l'aménager ? Ça, moi, je vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que les familles ne le savent pas non plus. Mais je pense que, de toute façon, il y aura une manière de faire à un moment donné. Et ça ne sera pas celle des sédentaires et ça ne sera pas la condition de la maison de retraite. Ça, c'est clair.
Bon, on est obligé de s'arrêter. Il est l'heure, même plus que l'heure. Donc, merci à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à tous les deux.
Le mieux possible. Oui. Je remercie Céline. Je vous remercie.